les podcasts de Radio Vatican.
Remaniement ministériel début octobre, accusation même d'empoisonnement. Au Zimbabwe, une guerre de succession est en cours au sein de la ZANU-PF, le parti de Robert Mugabe, entre l'un des vice-présidents et l'épouse du chef de l'État. Au pouvoir depuis près de 37 ans, Robert Mugabe, âgé de 93 ans, apparaît de plus en plus souvent assoupi lors de rencontres officielles. Le 10 octobre dernier, un syndicaliste a même été arrêté et inculpé pour insulte au chef de l'État, qu'il a qualifié de mort-vivant. Dans quel état se trouve le président zimbabwéen? Contrôle-t-il encore la situation dans son parti et surtout dans son pays? Michel Lafont est sociolinguiste émérite au CNRS, spécialiste du dialecte zimbabwéen, le Shona, et responsable de l'ouvrage « Le Zimbabwe contemporain » aux éditions Cartala.
C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut dire, évidemment, objectivement, il n'est pas en état d'être président ou d'avoir quelque activité que ce soit de responsabilité. On peut dire ça. En même temps, on peut aussi se dire que pour un homme de 93 ans, il se porte bien. Des Zimbabwéens disent « Oh, mais il est malade, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il est malade et qu'il est à l'article de la mort. » Visiblement, il a tenu. Son état, semble-t-il, serait détérioré depuis un ou deux ans. Mais à mon avis, tant qu'il est capable de tenir debout quelques heures par jour, il sera candidat à l'élection.
Le journal The Herald se félicitait il y a quelques jours, lors d'un remaniement du gouvernement, du contrôle qu'avait encore le président sur la situation politique dans le pays. Est-ce que c'est le cas?
Là, de nouveau, on ne peut pas véritablement savoir, mais il est vrai que ce remaniement suggère que c'est lui qui l'a décidé. On peut imaginer que la gestion courante des affaires lui échappe complètement. Mais il a sa main dans ce remaniement. Parce que, vous savez, Mugabe, depuis qu'il est président, et même avant, alors qu'il était encore en résistance, depuis la lutte d'indépendance, il a toujours su jouer, ni désigner de successeur, ni ne laisser monter des dauphins potentiels. Il a toujours su les éliminer. Et aussi jouer les uns contre les autres à l'intérieur de ZANU. Et là, c'est ce qu'il a fait parce que, vous savez qu'il est en opposition avec l'un de ses vice-présidents, Mnangagwa, qui est probablement la personne qui semble avoir le plus de chances de lui succéder. Et l'autre compétiteur, mais enfin, si on peut dire, c'est son épouse Grace. Grace et Mnangagwa sont ennemis. Et il a réussi à maintenir les deux, c'est-à-dire, bon, son épouse est toujours son épouse, et elle joue un petit rôle au sein de la Ligue des femmes de la ZANU. Et Mnangagwa est toujours vice-président, malgré les critiques de Mugabe à son égard, malgré un conflit ouvert. Donc il continue de jouer l'un contre l'autre, pour qu'il se neutralise en quelque sorte. Et là, ça montre qu'il a sa main.
Parce que précisément, Mnangagwa a perdu le titre de ministre de la Justice, donc c'était une manière de le remettre à sa place.
Oui, mais il reste vice-président, il s'en est pas débarrassé. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on note peut-être pas, il ne donne pas plus de pouvoir à son épouse. Elle n'est pas ministre, ce qu'elle aurait sans doute espéré. Il ne lui fait pas un tremplin.
Est-ce que, justement, on peut revenir sur ce choc d'ambition entre ces deux personnalités fortes au sein de la ZANU-PF? D'abord, qui est Emmerson Mnangagwa?
C'est un des rares qui reste. Il a 75 ans, je crois. C'est un compagnon de la lutte de libération. Donc, il a une légitimité. D'après certains, il serait un petit peu moins compromis que d'autres.
Il a été chef des services secrets du pays aussi?
Oui. Il est clair que pour s'être maintenu si longtemps et être toujours au pouvoir, il a su négocier beaucoup de virages.
Et quant à Grace Mugabe, est-ce qu'on peut parler un peu de cette femme de 52 ans apparemment au caractère bien trempé?
Oui, elle était secrétaire, je crois, de Mugabe. Bon. Elle a une ambition dévorante, extraordinaire. Mais ou bien elle est un petit peu folle, ou bien moi je pense qu'elle fait partie de ces nouvelles élites qui pensent qu'ils sont au-dessus du reste du commun des mortels. Vous connaissez le dernier scandale qui s'est produit en Afrique du Sud, il y a à peu près un mois. Donc elle accompagne Mugabe à une réunion politique des leaders de la SADC en Afrique du Sud. Il se trouve que ses enfants se trouvaient aussi en Afrique du Sud, ses enfants qui ne sont pas les enfants de Mugabe, ses enfants à elle. Et l'un de ses fils se trouve mêlé à un scandale dans un hôtel de Johannesburg. Apparemment, il avait maltraité le personnel ou bien il ne voulait pas payer les services de demoiselles, choses comme ça. Et les gens de l'hôtel faisaient des histoires à son fils. Donc Grace arrive à l'hôtel, à ce moment-là ses enfants s'en vont, et puis elle s'en prend au personnel de l'hôtel, au personnel de sécurité de l'hôtel. Elle a giflé ou frappé violemment une des femmes de service de l'hôtel qui apparemment a perdu sa grossesse, donc elle a dû la frapper fort. Il y a eu une plainte de déposée, et la police voulait arrêter donc Grace pour qu'elle donne des explications pour le moins. Elle a réussi à se faire attribuer un passeport diplomatique et donc l'immunité, donc après coup, pour pouvoir sortir du pays. Alors ça fait un scandale des deux côtés, évidemment, les Zimbabwéens, ça les trouble profondément, et aussi les Sud-Africains qui se disent que vraiment, c'est un petit peu exagéré, la couverture diplomatique qui lui a été donnée. Et c'est pas la première fois qu'elle s'en prend physiquement, elle a déjà apparemment frappé un journaliste de la BBC. C'est bizarre, hein ? Alors on ne sait pas. Moi je pense qu'elle doit penser qu'elle est au-dessus du commun des mortels. Les lois ne s'appliquent plus, elle fait tout ce qu'elle veut.
Les partisans de Mnangagwa l'ont accusée d'avoir empoisonné leur leader.
Oui. On ne peut pas savoir si est-ce qu'il a été empoisonné ou est-ce qu'il a eu une intoxication alimentaire. C'est des choses qui arrivent aussi. Lui, il a nié avoir dit qu'il avait été empoisonné.
En tout cas, ça montre une certaine animosité.
C'est plus qu'une animosité, oui. Mais pour en revenir à Grèce, tout son pouvoir tient au fait qu'elle est l'épouse du président. Si Mugabe venait à décéder ou s'il n'était plus président, elle va tomber. Elle n'a aucun soutien. Bien sûr, elle veut se propulser, mais c'est impossible.
Comment réagit la population face à ces guerres intestines ?
À mon avis, ils ont un total désintérêt pour ce qui se passe. Le ZANU a été, bien sûr, un parti populaire, etc., qui représentait une grande partie de la population. Ce n'est plus le cas.
Est-ce que l'opposition a encore des représentants qui mobilisent la jeunesse ou des électeurs ?
Je ne crois pas. Bon, Tsvangirai a tenu ce rôle dans les années 2000 en particulier. On présume qu'il a gagné une ou deux fois les élections. Enfin, son parti a gagné une ou deux fois les élections, mais que les résultats ont été maquillés par la suite. Mais après, il s'est un peu... Il y a deux aspects. D'une part, il s'est un peu discrédité lorsqu'il a accepté de participer à un gouvernement de coalition avec ZANU, sans obtenir des garanties pour ses supporters. Il a accepté cette charge alors même qu'il y avait des militants de son parti qui étaient en prison, qui n'ont pas été libérés, etc. Donc ça a beaucoup été à son détriment. Et puis, il est gravement malade. On a du mal à voir qu'il soit en état de mener une campagne. Et en même temps, il ne s'efface pas. Il ne désigne pas de successeur. Et apparemment, il veut continuer à diriger les choses au sein de MDC.
Et que dire du pasteur évangélique qui fut un temps emprisonné, le jeune Ewan Awarire ? Est-ce que c'est une personne qui rassemble ou est-ce que c'est quand même une personnalité de second plan ?
À mon avis, c'est un personnage secondaire, sans doute honnête, mais secondaire, qui a été mis en avant un peu par les réseaux sociaux pour des déclarations. Et donc qui a subi les foudres de ZANU et du gouvernement. Mais ce n'est pas un politicien. Vous savez, c'est la nouvelle manière de faire de la politique. Avec les réseaux sociaux, vous avez une case de résonance automatique, éventuellement. Mais ce n'est pas un politicien qui a un parti structuré derrière lui ou des moyens de faire campagne, quoi. On ne sache pas non plus que ce soit son ambition d'entrer en politique.
Et comment est-ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui l'expression d'un mécontentement ? Est-ce qu'il y a encore des grèves, des manifestations, des protestations, sinon une opposition construite ?
Non, les gens votent avec les pieds, hein, ils traversent la frontière et ils vont ailleurs. Et je crois que c'est aussi cela qui obère un petit peu la succession parce que avec peut-être facilement un tiers de la jeunesse et certainement les éléments les plus dynamiques qui sont à l'étranger, qui ont fait leur vie ou qui cherchent à faire leur vie, soit en Afrique du Sud, soit en Angleterre, soit au Canada, soit un peu partout dans le monde. Ça ôte beaucoup de force à la contestation au Zimbabwe. Et ces gens-là, c'est pas la question de savoir s'ils peuvent voter ou pas, mais ils ne sont pas en état de mener des manifestations, vous voyez, de participer à des protestations dans le pays.
Pour parler justement de la population peut-être la moins privilégiée, celle qui ne peut pas partir et celle qui du coup reste et vote avec les pieds, dans quelles conditions de vie ils sont aujourd'hui ?
Pour les paysans, tout dépend des pluies ou pas de pluies, et de savoir si les récoltes vont sortir ou pas. Une partie sont revenus un peu en autarcie, c'est un petit peu exagéré, mais vivent avec les récoltes locales, un peu d'argent qui est envoyé de l'étranger. Leur niveau de vie il s'est certainement empiré depuis les années 2000, hein, mais d'un an sur l'autre, est-ce que ça fait une différence ? On ne sait pas. Par contre, pour la classe moyenne, les fonctionnaires, en ce moment, il y a une grande crise parce que vous savez que les gens étaient payés avec ce qu'ils appellent des bond notes, une sorte de monnaie de monopoly, de monnaie locale fabriquée par le Zimbabwe, qui est censée avoir une valeur fixe par rapport au dollar américain. Parce que le Zimbabwe n'a plus de monnaie depuis plusieurs dizaines d'années ou quinzaines d'années. Et utiliser le dollar américain, éventuellement le rand, et surtout pas la livre sterling, puisque ce sont les anciens colonisateurs. Mais comme ils n'avaient plus assez de dollars pour payer les fonctionnaires en dollars, c'est la deuxième fois que ça fait à peu près un an, le gouvernement a émis ce qu'ils appellent des bond notes, qui sont des morceaux de papier censés être équivalents au dollar américain. Mais en ce moment, le bond note est en train de se casser la figure, parce qu'évidemment, ils en impriment plus que ce qu'il faudrait, plus que les réserves qu'ils ont en dollars. Et donc, au début, ça marchait à peu près. Les gens étaient payés en bond note, ils pouvaient les changer contre des dollars à un taux fixe. Mais maintenant, c'était à 50%. Donc ça veut dire qu'ils sont payés rien du tout, quoi. Et comme la plupart des choses actuellement au Zimbabwe sont importées, les prix augmentent. Et donc la classe moyenne, tous les fonctionnaires, etc. sont dans une situation inextricable.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.